Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans deux semaines, au Centre catholique universitaire de Rangueil aura lieu un week-end pas comme les autres, un week-end Jeunesse 2000. Le concept proposé à quelques dizaines ou centaines de jeunes de faire l'espace d'un week-end, l'expérience d'un Dieu vivant. Un défi fou, mais qui marche, puisque cela fait maintenant plus de 20 ans que des milliers de jeunes se pressent à ces week-ends, aux États-Unis et en Europe. Alors, pour parler de ces week-ends Jeunesse 2000 avec ce titre, j'avais au début osé un titre, j'avais choisi un titre osé, 48 heures enfermées avec Jésus. Voilà, vous allez nous dire si c'est vraiment ça. Alors, on a beaucoup d'invités ce matin. Tout d'abord, Isabelle Schmitt qui est au téléphone depuis Paris. Bonjour Isabelle.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, donc vous êtes journaliste aujourd'hui, journaliste au Figaro hors série, et vous avez fait partie de la petite équipe au début qui a contribué à introduire Jeunesse 2000 en France. Vous nous raconterez ça tout de suite après. Nous sommes normalement aussi en ligne avec Anne-Charlotte Marquis, ça ne va pas tarder, qui est responsable nationale de Jeunesse 2000, avec Philomena Jurgatit, vous me dites si je prononce bien, membre de l'équipe nationale de Jeunesse 2000, bonjour.
Bonjour.
Hortense Rigal, vous êtes organisatrice du week-end à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Plus tard, nous aurons Thomas Ramos, qui est membre de l'équipe musique de Jeunesse 2000. Et enfin, Tiffaine de Vim, vous êtes responsable communication de ce week-end à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence avec vous, Isabelle. Vous avez été au départ de l'aventure, puisque tout est né, si je ne me trompe pas, au contact des franciscains du Bronx à New York. Alors, dites-nous tout et dites-nous qui sont les franciscains du Bronx, parce que tout le monde ne connaît pas ces franciscains.
Alors les franciscains dits du Bronx ne s'appellent pas comme ça, en fait ce sont les franciscains du renouveau, frères franciscains du renouveau. Ils sont nés en fait du désir de quelques frères capucins dans les années 90 de vivre une vie plus conforme à la règle originelle de saint François, avec une plus grande pauvreté et une présence auprès des plus pauvres. Ils sont allés voir l'archevêque de New York, qui était à l'époque le cardinal O'Connor, qui leur a dit « mais si vous voulez vivre vraiment conformément à la vie de saint François, êtes-vous conscient que saint François a vécu embrassé à la croix? Alors, si tel est votre désir, je vous envoie dans le lieu qui souffre le plus et qui est le plus proche de la croix à New York, qui était à l'époque le Bronx. Le Bronx était un quartier qui était devenu très violent, qui était en proie au trafic de drogue à haute dose, dont les maisons étaient incendiées et les voitures brûlées, les gens agressés, etc. Et qui en fait vivaient une spirale de la violence. Et ces franciscains sont allés s'installer dans le Bronx pour être une présence d'amour, une présence de lumière, une présence de paix au cœur de ce quartier. Et voilà, maintenant, plus de 20 ans qu'ils y sont.
Et alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, Isabelle? C'est-à-dire, vous étiez en voyage avec des amis, c'est ça? Et à ce moment-là, vous avez entendu parler de Jeunesse 2000?
Alors, plus précisément, je suis allé voir les franciscains du Bronx parce que j'avais lu un livre du journaliste Luc Adrian, de famille chrétienne, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Des fleurs en enfer ». Et en lisant ce livre, je me suis dit, si ce qu'il raconte est vrai, si l'histoire de ces franciscains est vraie, je dois aller voir ça de mes yeux. Parce que ça bouleversait totalement mes schémas, tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais vu. Tout le côté social, toute l'image sociale d'un certain catholicisme qu'on peut avoir, lié à un milieu, une éducation, etc. Et du coup, j'ai eu le désir de me joindre à un groupe de jeunes qui partaient là-bas. On avait qu'un mois et demi auprès de ses frères, et ce sont les franciscains qui nous ont emmenés en fait dans une retraite, un week-end Jeunesse 2000, dans le New Jersey. Et là, en fait, arrivé là-bas, on a été extrêmement surpris et bouleversés de voir à la fois l'intensité du programme qui était proposé, l'exigence qui était proposé à des jeunes qui parfois n'étaient pas du tout pratiquants, voire pas croyants, et en même temps la diversité aussi du public que cela attirait. Et c'est donc un programme de 48 heures face à Jésus, en présence de Jésus, c'est-à-dire Jésus exposé dans le Saint-Sacrement, et en face à lui se déroule tout le programme du week-end, avec des temps de louange, des temps d'enseignement, des temps de méditation, d'adoration plus recueillie. Et en fait, en voyant à quel point ces jeunes très divers, parce qu'il y avait à la fois des cathos bourgeois dans notre genre, et en même temps des jeunes du Bronx, et des jeunes en difficulté, des jeunes qui étaient manifestement hostiles au départ, et puis qui petit à petit changeaient, c'est ça en fait nous qui nous a vraiment impressionnés, c'est qu'on a vu les visages des jeunes qui étaient là s'éclairer au fur et à mesure. Et pas seulement parce que c'était sympa et qu'il y avait des temps sympathiques, etc., On n'est pas 48 heures enfermé avec Jésus à ce point de ne pouvoir sortir. Il y a quand même évidemment des temps de
détente. Les portes sont ouvertes quand même.
Mais voilà, les portes sont ouvertes. Et puis surtout, enfin le terme enfermé, disons que c'est, je dirais, 48 heures branché à Jésus. Oui, relié à Jésus, regardant Jésus et se laissant regarder par lui. Et manifestement, ce regard, ces regards échangés, a totalement transformer le cœur de beaucoup des jeunes qui étaient autour de nous. Et, alors, et donc, de retour en France...
Qu'est-ce que vous êtes dit, du coup? Vous êtes allé voir vous-même, à ce moment-là, le cardinal archevêque de Paris. Vous êtes dit, voilà, on a envie de développer ça en France. Comment vous y êtes pris, en fait?
Alors, on a fait ça au départ de façon, je dirais, plus artisanale que ça. On aurait certainement dû aller voir le cardinal archevêque de Paris pour commencer, mais on s'est dit, on va inviter les frères franciscains et organiser un week-end Jeunesse 2000. Alors, c'était pas à Paris, c'était à Antony. Donc à l'époque, c'était l'évêque de Nanterre, je crois, dont on dépendait. Et bien sûr, on l'a invité et on a invité les aumôneries et les groupes de prière autour de nous. Mais en fait, le bouche à oreille a tellement fonctionné qu'on s'est retrouvé à 500 jeunes en moyenne pour le week-end et puis 800 jeunes à la première veillée, enfin à la veillée du samedi soir, dont on parlera peut-être après, mais qui est la veillée la plus impressionnante et un des moments les plus forts du week-end.
Et alors c'était à quelle date, rappelez-nous?
C'était en novembre 2001.
D'accord. Merci beaucoup pour cette genèse. Je me tourne vers vous, enfin, façon de parler, Anne-Charlotte Marquis, vous êtes aussi au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà,
bonjour, merci.
Vous avez entendu Isabelle?
Oui, tout à fait.
Voilà, alors peut-être maintenant pouvez-vous nous dire, donc ça c'est un peu la genèse, peut-être faut-il revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est comme ça que c'est arrivé en France, mais c'est pas tout à fait comme ça que c'est né, alors on aurait peut-être dû commencer par là. c'est un jeune laïc anglais qui s'appelle Ernest Williams, donc qui semble-t-il, après les Journées mondiales de la jeunesse à Compostelle avec Jean-Paul II, s'est dit, il faut faire quelque chose quand il a entendu l'appel de Jean-Paul II à se lancer dans la nouvelle évangélisation, et puis petit à petit est née cette idée de week-end. Alors si on doit revenir encore en arrière et refaire le flashback tout à fait, dites-nous qui est cet Ernest Williams et qu'est-ce qu'il a eu dans le cœur, et surtout comment c'est passé du cœur à la réalité.
Alors oui, en effet, c'est vraiment au GMJ de Saint-Jacques de Compostelle en 89, donc c'est encore un des jeunes qui a été touché par les GMJ mis en place par Jean-Paul II. Et c'est vraiment la phrase que Jean-Paul II a dite qui vraiment appelait les jeunes à placer l'Eucharistie au centre de leur vie et à aimer l'Eucharistie, à adorer l'Eucharistie, que Ernest Williams s'est rendu compte que c'est quelque chose que lui, dans sa vie, il n'avait pas et que les jeunes en Angleterre, parce qu'il est anglais déjà de base, ne connaissait pas. Et il a vraiment ressenti l'urgence que le pape Jean-Paul II a voulu transmettre, de faire découvrir aux jeunes la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et vraiment l'amour qui se dégageait de cette Eucharistie. Donc lui, l'année suivante, directement, il a souhaité organiser un week-end qui reprenait un peu l'esprit des GMJ que lui, il a tant aimé, il a tant touché. Donc avec le soutien de quelques prêtres en Angleterre, il a lancé un week-end centré sur l'adoration. Mmh. Donc il s'est inspiré de l'ancienne tradition des 40 heures de dévotion de Clément VI, de la louange.
Alors rappelez-nous juste, parce que tout le monde ne connaît pas ça, c'est quoi cette tradition dont vous venez de parler?
Donc c'est vraiment avoir une adoration de la Sainte Eucharistie. Eux, c'était pendant 40 heures de façon... continuel, donc jour et nuit. Donc c'est vraiment ce que Jeunesse 2000, enfin à l'époque c'était pas encore Jeunesse 2000, mais ce que lui cherchait à mettre en place, c'est d'avoir pendant un week-end vraiment une présence de l'Eucharistie continuelle, et que les jeunes vraiment rencontrent cette façon de prier le Seigneur de cette manière-là, et que et qu'ils la vivent, et qu'ils vivent un week-end avec d'autres prières différentes, mais qu'ils le vivent toujours avec l'Eucharistie au centre, pour vraiment répondre à l'appel que Jean-Paul II a lancé, c'est-à-dire de vraiment recentrer l'Eucharistie dans leur vie et de vivre une première expérience de cet appel-là dans un week-end.
Alors donc, ce premier week-end a eu lieu du coup quelle année? La première édition, c'était quoi? C'était 1990, c'est ça?
Oui, tout à fait, en 1990, donc il y a 26 ans maintenant.
Donc en Angleterre?
Exactement, et petit à petit, la formule a vraiment beaucoup plu aux jeunes, parce que comme l'a dit Isabelle, transformer les jeunes au fur et à mesure du week-end. Les jeunes étaient peut-être un peu réticents à l'époque, parce que c'était quelque chose d'assez innovant. Même encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui connaissent l'adoration, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Donc au fur et à mesure du week-end, on sent que les gens les jeunes qui se font à cette adoration, qui s'habituent à la présence du Seigneur et qui vont commencer à vraiment chercher à la trouver. Et ils vont être touchés par cette rencontre et ils vont vraiment avoir l'envie de retrouver ce genre de week-end. L'église en Angleterre, qui est en Angleterre, va également reconnaître rapidement les fruits que pouvait apporter cette association, ce mouvement, ces week-ends. Et donc vont vraiment aider Ernest à regarder.
Ah ouais, c'est ça, exactement. Donc ça s'est développé donc, en 1992, on peut dire quoi, États-Unis, Angleterre. Donc c'est arrivé en 2000 en France. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, des week-ends Jeunesse 2000, il y en a 10 par an dans le monde, il y en a des centaines, il y en a quoi, je disais en introduction, en Europe et aux États-Unis, un peu quelle est l'ampleur du mouvement aujourd'hui?
Alors, pour le monde, moi aujourd'hui je ne suis pas capable de vous dire combien ils font dans chaque pays. Nous en France, je sais qu'on fait une dizaine environ de week-ends par an, donc c'est vraiment une moyenne. On est le pays qui organise le nombre de week-ends le plus nombreux, parce qu'en fait, à vrai, dans d'autres pays, ils ont des versions peut-être un peu différentes. Par exemple, je sais que en Irlande ou en Angleterre, ils vont organiser moins de week-ends, mais des plus gros week-ends. C'est-à-dire qu'on va réunir plusieurs diocèses, plusieurs régions. Donc c'est vraiment, eux, ils ont une autre façon de fonctionner que nous. Chaque pays a vraiment sa propre identité, sa propre façon de fonctionner. L'église qui est en France n'est pas la même église qui est en Angleterre, qui est en Irlande, qui est aux États-Unis.
D'accord.
Donc c'est vraiment des façons de faire très différentes. Je sais qu'aux États-Unis et en Angleterre, le mouvement est encore plus développé et très très présent dans l'église. Bon, après, il faut remettre les choses dans son contexte. En Angleterre, par exemple, il y a beaucoup plus de protestants ou d'anglicans que de catholiques. Donc, du coup, les mouvements sont peut-être moins répandus.
Bien sûr, et puis l'adoration du Saint-Sacrement est moins évidente. On pourra revenir un peu plus longuement dans l'émission, parce que c'est vrai que ça paraît évident pour les membres de Jeunesse 2000, mais ce n'est pas pour tous les catholiques, et a fortiori pour tous les chrétiens. En tout cas, avant de faire une première pause, on peut dire que le mouvement aujourd'hui existe donc en France, en Irlande, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, en Belgique. Voilà. Un mouvement né en 1989 et qui a pris feu. Voilà, ce matin nous parlons donc de Jeunesse 2000 avec ce titre au départ, mais qu'une des invitées a déjà critiqué, 48 heures enfermées avec Jésus. Alors c'est vrai qu'on n'est pas enfermé avec Jésus, évidemment les portes sont ouvertes et surtout c'est un temps de cœur à cœur avec Jésus. Pour cette émission, je vous rappelle que nous avons plusieurs invités. Anne-Charlotte Marquis qui est responsable nationale de Jeunesse 2000, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne. Anne-Charlotte, vous m'entendez ? Voilà, alors elle n'est pas là, mais on va la rappeler. Philomena Jurgatit, donc vous êtes membre de l'équipe nationale de Jeunesse 2000, je vais vous donner la parole tout de suite. Hortense Rigaille, vous êtes organisatrice de ce week-end à Toulouse. Tiffaine de Vim, responsable de la communication de Jeunesse 2000, en tout cas pour ce week-end à Toulouse. Et puis un peu plus tard dans l'émission, on aura Thomas Ramos, qui est lui aussi membre de l'équipe de Jeunesse 2000. Alors je me tourne vers vous. Philomena Jurgatit, vous êtes vraiment en studio, donc c'est vrai quand je me dis que je me tourne vers vous. Peut-être qu'on peut commencer par parler de l'adoration. Le cœur du concept de ce week-end, oui. c'est un week-end centré sur l'adoration, en fait, où tout se passe en présence de l'adoration. Alors pour ceux pour qui c'est du chinois, qu'est-ce que c'est l'adoration ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Eh bien, c'est très simple. L'adoration, c'est en fait, on prend le moment qu'on a pendant la messe de consécration et quand on lève l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain consacré au milieu de la messe, on prolonge ce moment et on prend le temps vraiment de regarder Jésus, qu'on croit, du coup, ce pain consacré qu'on croit et qui est Jésus présent dans ce pain, et on prend le temps de le regarder et. C'est ça en fait, ne pas forcément lui parler, ne pas forcément, on peut, mais c'est surtout le regarder avec amour et prendre le temps d'être dans sa présence en fait.
Alors de fait, ça pour beaucoup de gens, ça peut paraître complètement fou.
Et oui.
En fait, le christianisme dans le fond c'est quelque chose de fou, hein, déjà de croire que quelqu'un est mort et ressuscité, qu'on peut avoir une relation avec quelqu'un qui est supposé être défunt. Mais vous y avez toujours cru en fait à l'adoration, alors peut-être qu'on peut en profiter, on peut plonger tout de suite dans le sujet. Et se mettre à genoux devant ce que d'aucuns diraient un morceau de pain, ça paraît pas très évident, et voire même on peut vous dire que vous êtes tombé sur la tête, non?
Oui, c'est vrai que moi non plus, je comprenais pas toujours en fait quand j'étais jeune, surtout je comprenais pas l'intérêt de, et je croyais pas que Dieu peut être présent dans un morceau de pain. Mais c'est du coup, moi, ça s'est passé comme une rencontre, justement, quand j'ai pris le temps de me poser la question, mais qu'est-ce que je fous là, devant ce pain ? Et Jésus, si tu es vraiment présent dans ce pain, comme les gens me disent, eh bien, viens me le montrer. Et j'ai senti vraiment une présence, un amour qui se versait sur moi d'une manière pas forcément très sensible physiquement, mais plutôt spirituellement. J'ai senti vraiment une paix qui m'habite et une certitude qui ne me quitte plus depuis. Et je sens aussi que chaque fois quand je fais un week-end Jeunesse 2000, le fait de rester dans sa présence, du coup, dans l'Eucharistie, dans ce pain, devant lui, et que ça change quelque chose dans ma vie. Et je vois que ça me fait du bien et que ça me donne la paix, ça me donne la joie et ça me motive pour vivre après. Bref, je vois que c'est pas juste un morceau de pain. Pour moi, ça change vraiment quelque chose et du coup, pour moi, ça prouve que c'est pas seulement le pain. Pour moi, c'est vraiment Dieu qui est présent dans le pain.
Voilà, en tout cas, c'est aussi la foi de l'Église. Alors, pour nous expliquer peut-être, alors vous l'avez dit, hein, mais est-ce que dès le départ, le cœur du concept, c'était l'adoration en continu ? Et peut-être pourquoi ? Alors, Isabelle Schmitt en a dit quelques mots, et puis Anne-Charlotte Marquis aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est de proposer en fait une expérience radicale à des jeunes, parfois une expérience contraignante, hein, pour des jeunes qui parfois peuvent être très très loin de ce type de réalité. Mais en fait, la radicalité, quelque part, fait partie du week-end, c'est ça ? Ou pourquoi tout centré sur l'adoration eucharistique ?
On peut dire ça, oui. Je pense que c'est surtout donner du temps, une occasion aussi pour les jeunes, de prendre le temps avec Jésus. Et comme on expose, du coup, il est exposé tout le temps sur l'autel, et on fait tout dans sa présence, et pour moi, c'est un signe que c'est comme ça dans notre vie aussi, qu'il est toujours présent dans notre vie. Sauf que là, on a une... comme une preuve visuelle un peu. On le voit toujours devant nous. Et il y a tout ce qui se passe devant lui. Il y a les enseignements, les témoignages, les temps de prière. Et on lui retire juste pour la messe. Mais il est prêt, du coup, exposé de vendredi soir jusqu'à dimanche à la messe. Et pour moi, c'est vraiment un signe visible qu'il est présent tout le temps avec nous. Et En tout cas, moi, j'avais besoin du temps, de prendre le temps et à me rendre compte. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on prend vraiment 40 heures pour que ça vient.
Donc ça rentre, oui.
Mais ça rentre.
Alors, vous avez aussi une manière de, comment dire, pas de mettre en scène, mais enfin, d'accompagner la présence du Saint-Sacrement. Vous parlez du buisson ardent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous y prenez pour que ce morceau de pain ardent, se transforme en buisson ardent?
Le buisson ardent, c'est une pratique de mettre le Saint-Sacrement pas forcément sur l'autel, comme on a l'habitude en France, mais de le mettre au centre de la pièce où se passe le week-end. On appelle ça un buisson ardent parce que c'est une espèce de chose où on met beaucoup de bougies et le Saint-Sacrement est au centre, sur un sommet, une espèce de pyramide, je dirais. Pas forcément pyramide, voilà. Sur l'auteur, au milieu, et on l'entoure autour. C'est pour ça, pour voir que le Seigneur est au centre. Après, on ne le pratique pas actuellement en France. On a cette pratique en Allemagne et en Angleterre.
Et pourquoi pas en France? Parce que liturgiquement, certains trouvent que c'est un peu osé.
Pour l'instant, c'est juste les moyens techniques. On a perdu notre buisson ardent et du coup, là, il est en train de. On voit comment on pourrait le réfabriquer à nouveau. Et aussi, ça ne correspondait pas forcément à la demande.
Le nom des lieux, oui. D'accord. Alors, Hortense Rigal, racontez-nous un petit peu pour Toulouse. Donc, de fait, dans ces week-ends, il n'y a pas que le Saint-Sacrement qui est exposé dans ce buisson ardent, justement, pendant presque 48 heures. Hein. Mais évidemment, c'est accompagné d'un certain nombre d'enseignements. Alors, mon petit doigt m'a dit, en tout cas, vous m'avez dit, à Toulouse, qu'il y aurait un certain nombre de prêtres diocésains, de communautés. Peut-être que vous pouvez nous dire qui. Et puis, quel est leur rôle? Et il y a quand même tout un parcours, en fait, d'initiation à la foi chrétienne au long de ce chemin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Tout à fait. Alors, en fait, on invite le jeune à se laisser saisir par la présence de Dieu tout au long du week-end. Donc, il y a un cheminement, en fait, où le jeune va être accueilli. Donc, ça commence dès le vendredi soir, où il y a un temps d'accueil, où on va lui présenter un petit peu comment ça se passe, sans trop dévoiler le week-end, pour qu'il se laisse vraiment porter. Et qui n'est pas les contraintes matérielles à se dire à telle heure j'ai quelque chose. Il se laisse vraiment porter. On le guide en fait tout au long du week-end. Et alors il y a différents moments dans le week-end. Et donc il y a des enseignements qui vont être du coup donnés par des prêtres diocésains ou des religieux diocésains. Donc c'est la vocation de nous à Toulouse. De pas avoir de tête d'affiche comme les franciscains du Bronx.
Voilà, donc il faut dire qu'au début, c'était beaucoup accompagné, en tout cas aux États-Unis, même un peu au début en France, par des franciscains qui ne venaient pas toujours du Bronx. Parfois, ils venaient d'Angleterre, puisqu'ils ont des antennes, je crois, ils ont une antenne près de Londres.
Tout à fait.
Et voilà, donc en fait, c'est ça aussi qui faisait venir. C'est-à-dire qu'on voulait voir ces hommes qui essayaient de vivre comme saint François d'Assise.
Exactement, c'était des hommes qui étaient marquants, qui avaient des beaux témoignages. Et alors après, il y a eu d'autres têtes d'affiche. Enfin, il y en a toujours des prêtres un peu charismatiques, comme le père René Luc. Qui est à Montpellier. Et donc nous, la vocation, c'était vraiment d'unir en fait les jeunes de découvrir la richesse du diocèse de Toulouse. Et donc on a des prêtres, donc notre aumônier, c'est le père Régis Gropérin qui est assomptionniste, qui est le responsable des jeunes professionnels. Mais du coup, on a demandé également à d'autres prêtres, notamment le père Arnaud, qui est le responsable de la paroisse étudiante, et d'autres prêtres du diocèse. Donc c'est la paroisse Saint-Marc qui nous accueille, donc il y a le prêtre de l'église de Saint-Marc qui est
donc c'est très large. Mais alors qu'est-ce que vous leur dites du coup? Est-ce que vous pouvez nous refaire le parcours? Vous disiez qu'en fait il y avait toute une partie sur le kérigme, après vous parlez aussi de la chasteté, après vous parlez de l'évangélisation. Alors peut-être nous dire pourquoi, quelle est la suite logique de ces enseignements, et puis nous dire comment vous y prenez. Enfin, est-ce que quelque part c'est une formule aussi qui est adaptée, parce que annoncé comme tel, on se dit ça ne peut convaincre que des convaincus. Commencer par le kérigme, ensuite la chasteté, l'évangélisation, ça paraît, j'imagine, vous qui êtes étudiant ou jeune professionnel, c'est souvent des gros mots pour les gens d'aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on le dit pas trop, en fait. on annonce que c'est vraiment...
Publicité mensongère, alors.
Non, c'est plutôt la surprise. Et puis en fait, voilà, donc les enseignements qui vont être tout au long du week-end vont permettre de découvrir et d'approfondir la foi de manière comme une vague, on va dire. On se laisse porter, et donc ça commence avec les bases de la religion, donc le kérisme.
Donc le kérisme, redites, qu'est-ce que c'est que le kérisme?
Alors c'est en fait, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Il a donné son Fils unique pour sauver le monde. Voilà, c'est un peu la base.
C'est la proclamation de Saint-Pierre, donc dans les Actes des Apôtres, voilà, où Saint-Pierre sort et il dit ce Messie que vous avez, enfin ce Juif que vous avez crucifié, c'était le Messie, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité, etc., etc.
Voilà. Tout à fait.
Je vous aide.
Merci,
continuez.
C'est gentil. Et alors, à la suite de chaque enseignement, il y a un temps de partage où du coup, où le jeune va pouvoir poser des questions, parce que justement, le but est de faire découvrir la foi aussi à des personnes qui n'ont pas l'habitude. Et on invite vraiment tous les jeunes, ceux qui sont loin de la foi, ceux qui vont pas à la messe, ceux qui ont vraiment envie de découvrir Jésus. Qui disent, mais pourquoi il y a des gens qui croient ? Voilà, on les invite à vraiment venir à ce week-end-là. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous qu'il y a un week-end comme ça. C'est vraiment, voilà, pour tous.
Donc
pour
le kérigme, et après, donc, vous parlez de l'Eucharistie,
voilà,
de la chasteté. Redites-nous dans l'ordre un petit peu.
Alors ça commence par le kérigme, après il y a la chasteté, il y a la réconciliation, donc le sacrement du pardon. Et ça termine par Marie, étoile de l'évangélisation. C'est un appel à la mission. Voilà, le jeune découvre la foi. Il y a un point clé au milieu du week-end, c'est la veillée d'adoration qui a lieu le samedi soir, où on invite du coup même plus largement les gens qui peuvent pas venir au week-end, on leur demande de proposer à leurs amis de venir juste le samedi soir à la veillée, où il y a des prêtres qui sont à la disposition des jeunes pour recevoir ce sacrement. Et il y a le Saint-Sacrement qui passe... Voilà, devant chacun, qui bénit chacun. Et donc c'est vraiment le point clé et c'est un moment très très fort. Et donc voilà, et donc pour pas que les jeunes s'essoufflent, on les invite ensuite à la mission. Et c'est pour ça que les topos sont ainsi réglés dans cet ordre-là.
Alors Tiffaine Devim, vous vous occupez de la communication, si je ne me trompe pas, de cet événement. Alors comment vous faites ? Parce que parler, dire, voilà, on va passer 48 heures dans un lieu, alors non pas enfermé, mais en présence de Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement, on va parler de la chasteté, de l'évangélisation et du kérigme, on se dit, il va y avoir deux pelés et trois tondus. Alors comment vous faites pour communiquer là-dessus ? Et est-ce que de fait, vous pouvez nous dire, qu'est-ce qui, à votre avis, attire de tous ces jeunes qui viennent à ces week-ends Jeunesse 2000 ?
Alors, tout d'abord, on s'adresse donc à des jeunes de 16 à 30 ans qui sont lycéens, étudiants, jeunes professionnels et qui ont déjà une certaine approche de la foi, qui connaissent, qui s'y connaissent un minimum. Et on a la chance d'avoir à Toulouse un réseau d'étudiants, de lycéens et de jeunes professionnels bien organisé. Et donc... On touche pas mal ces jeunes-là et on les invite justement à aller inviter plus largement autour d'eux. Donc les moyens de communication, donc voilà, ça passe pas mal par les réseaux qui sont déjà en place à Toulouse. Et après, c'est vraiment le bouche à oreille et la renommée aussi de Jeunesse 2000 qui fonctionne.
Mais je vous pose ma question, c'est vous, fort de votre expérience, vous avez quel âge peut-être ?
J'ai 25 ans.
25 ans, vous imaginez bien qu'enfin, si vous en parlez très largement autour des gens avec qui vous travaillez, si, je crois que vous êtes jeune professionnel, c'est
oui.
Ça ? Ils vont vous ouvrir des yeux tout ronds et vous demander qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, est-ce que vous pensez de fait que c'est une formule adaptée à tout à chacun ? Et est-ce que le plus difficile, c'est d'arriver à convaincre les personnes de venir faire l'expérience de ce week-end ? Alors, si Tiffaine ne peut pas répondre, on demandera à Philomena Jurgatit, mais essayez peut-être de répondre à ma question. Vous êtes parfois un peu partagé comme ça, vous vous dites...
C'est vrai qu'en plus, moi, je viens d'arriver, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Jeunesse 2000. Et en fait, je trouve que si le concept, justement, peut vraiment parler aux jeunes, parce que déjà, il y a quand même beaucoup de louanges. Du coup, c'est très joyeux et on se sent vraiment porté. Et ça, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu en découvrant Jeunesse 2000. Et après, il y a beaucoup de témoignages qui permettent de se dire « Bon, je ne suis pas forcément seule à me poser des questions. » Et donc, tous ces témoignages impliquent forcément un cheminement. Donc déjà, on se sent porté par la louange, il y a beaucoup de joie. Ensuite, il y a ces témoignages qui nous donnent envie de cheminer, d'en savoir plus. Et justement, pour en savoir plus, on peut, y a les enseignements. Et après, on peut partager ce qu'on ressent lors de temps de partage. Donc vraiment, je trouve que le principe, le concept est vraiment très bien étudié, très bien fait pour porter les gens qui, comme moi par exemple, au départ, étaient un peu frileux au niveau de la foi.
Philomena Jurgatit, est-ce que de fait on arrive à convaincre seulement les catholiques pratiquants de venir à ces week-ends, ou est-ce que de fait à chaque week-end il y a des gens qui sont loin de la foi et qui débarquent au week-end Jeunesse 2000 ?
C'est vrai que on a déjà dans l'équipe nationale, on a discuté par rapport à ça et on a quand même fait conclusion que le week-end est plutôt adapté aux jeunes qui sont déjà catholiques qui ont au moins des bases, qui connaissent quelque chose, parce que si on arrive et on connaît rien du tout, c'est vrai que ça peut faire un choc. Après, dans chaque week-end, il y a au moins une ou deux personnes qui connaissent rien du tout et qui rentrent, et au début ils sont oh là là, qu'est-ce qui se passe, mais après petit à petit ils commencent à rentrer, et voilà, c'est, pour eux c'était un peu ce qui devait se passer, mais ce qui marche le mieux en fait, c'est pour les gens qui sont déjà dans l'église, qui vivent un moment difficile ou qui sont un peu éloignés, ou pas forcément, qui veulent faire revivre leur foi, qui veulent re-rencontrer le Seigneur ou le rencontrer pour la première fois, c'est voilà, un moment fort pour se relancer dans sa foi et dans la relation avec le Seigneur.
Une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom. Élevez les mains en son nom. Élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin nous parlons de Jeunesse 2000, donc il y a une émission de découverte de Jeunesse 2000, donc 48 heures avec Jésus. Nous sommes toujours avec Philomena Jurgatit, qui est membre de l'équipe nationale de Jeunesse 2000, Hortense Rigaille, qui est organisatrice d'un week-end à Toulouse, donc le 29 janvier, on donnera tous les détails pratiques à la fin, Tiphaine Devim, responsable de la communication de ce week-end, et maintenant Thomas Ramos, vous êtes membre de l'équipe musique de Jeunesse 2000, bonjour Thomas.
Bonjour, tout à fait, membre de l'équipe musique.
Voilà, alors donc on a vu quelle était un peu la jeunesse de ce mouvement, donc né autour des Journées mondiales de la jeunesse, donc à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1989, autour de ce jeune Ernest Williams, ensuite cette jeunesse française qui est partie du Bronx. Donc ces week-ends, le public est assez large et parfois il se passe des grandes et belles choses, comme je disais en introduction, ces week-ends qui proposent de faire l'expérience d'un Dieu vivant. Alors semble-t-il, c'est votre expérience à vous, Thomas Ramos. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il faut remonter un petit peu le temps. J'ai 24 ans aujourd'hui, j'en avais 17 à l'époque. Et on va tirer un trait sur tout ce qui est enfance dans une famille catholique, tout ça. Je pense que des témoignages comme ça, vous en avez entendu des dizaines, pour ne pas dire plus. En fait, tout simplement, à un moment donné, j'arrive à un âge merveilleux appelé l'adolescence, puis j'ai fait un paquet de bêtises. À l'âge de 17 ans, moi, j'étais en dépression profonde, hein, et puis j'étais accro à un certain nombre de trucs. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Tout ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui m'ont proposé d'aller à un week-end de prière. Alors le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par rigoler très très fort. Et ensuite j'ai dit d'accord, mais en fait le week-end prochain, soit je vais avec eux, soit je suis coincé avec mes parents à la maison. Du coup je vais aller avec eux. Oui. Sinon, c'était pas hyper intéressant d'être coincé avec mes parents à la maison, voilà, tout simplement. Du coup, je me retrouve sur ce week-end.
Donc c'était un week-end jeunesse 2001.
Week-end jeunesse 2000, on parle d'un week-end qui s'est passé en février 2009 à Paris, qui était prêché par le père René Luc.
Donc le père René Luc, on en a parlé plusieurs fois, je resitue, hein, donc c'est un prêtre qui a écrit un témoignage qui s'appelle Dieu en plein cœur et qui est très connu en France et qui est spécialisé, on va dire, dans un apostolat auprès des jeunes. Allez-y, continuez.
Voilà, en fait, ce qui est intéressant dans le témoignage du père René Luc, c'est que moi, pour le coup, il m'a touché, pour ne pas citer le bouquin, en plein cœur, dans le sens où je me suis retrouvé face à un gars qui avait concrètement, dans la vie, tout pour ne pas aller bien. Donc, au niveau de ses expériences, il avait tout pour que ça aille pas. Et en fait, ben, ce gars-là était devant moi, il allait bien, il était heureux de vivre, et en plus, il voulait nous le partager. Moi, ça m'a fait un petit choc, hein, dans le sens où, vous voyez à peu près un ado en dépression, ce que ça donne, ben, c'est pas hyper joli à voir. Et ce mec-là me dit qu'en fait, il est possible d'être heureux, même quand on a des expériences malheureuses. Voilà, premier choc du week-end. Le deuxième, ça s'est passé pendant la veillée du samedi soir, en fait, vous en avez peut-être déjà parlé, je ne sais pas.
Oui, tout à fait, oui.
C'est la veillée de procession du Saint-Sacrement. Enfin, grosse veillée d'adoration, moi, en tout cas, c'était une procession du Saint-Sacrement où il venait passer une minute devant chaque personne qui était présente à ce week-end. Et donc, on était bien rangés pour faciliter le passage du prêtre. Et en fait, à ce moment-là, il s'est passé un truc de dingue, que je qualifierais de rencontre, hein. J'appelle ça une rencontre parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est le seul autre mot qu'on pourrait employer, c'est révélation. Oui. Et en fait, il se passe un truc de fou, c'est-à-dire que je me mets concrètement à pleurer bien, mais bien, et alors sans savoir pourquoi. Hein. Parce qu'il faut savoir que le principe de base de l'ado qui va pas bien, c'est que ça ne pleure pas. C'est pas possible, parce qu'on sait que quand on commence, on s'arrêtera pas. Donc il faut surtout pas commencer. Et bien là, en fait, tout est tombé. Tout ce que j'avais, tout ce qui allait pas bien, tous les trucs un peu moisis, un peu pourris que j'avais fait, tout est tombé, tout est sorti à ce moment-là, et s'est retrouvé, en fait, au pied de Jésus-Christ. Et je relève la tête, et je vois le prêtre devant moi avec le Saint-Sacrement. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez puissant, dans le sens où c'est une révélation, concrètement, de l'amour du Père. Voilà. Une révélation de l'amour du Père. Moi, j'ai rencontré Dieu par le pied du Fils, évidemment, mais par cette révélation de l'amour du Père. Ça a été un rétablissement de la paternité de Dieu sur ma vie, sur moi. Et voilà, tout simplement. Alors, faut savoir que...
Tout simplement, c'est vite dit, hein, mais bon, c'est
en tout cas... C'est vite dit, mais on pourrait en parler pendant des heures.
Oui, alors, de fait, on n'a pas des heures. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Aujourd'hui, donc, vous participez à Jeunesse 2000, c'est-à-dire qu'après avoir vécu ça, vous vous attachez à essayer de faire partager ça à des jeunes qui sont parfois loin de tout ça.
Ouais, alors moi, et pas seulement sur Jeunesse 2000, moi après j'ai des engagements au niveau de la louange et de la musique sur plein de mouvements, notamment un groupe de prière sur Avignon, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Voilà, en tout cas, vous participez aussi à Jeunesse 2000, mais on va dire côté musique, c'est ça?
Voilà, musique louange.
Merci beaucoup en tout cas de ce beau témoignage. Peut-être qu'on vous redonnera la parole un petit peu plus loin. Philomena Jurgatit, des expériences de Dieu comme ça, les expériences d'un Dieu vivant, c'est monnaie courante dans ces week-ends ou est-ce que ça relève de l'exception? Vous disiez qu'en fait, à chaque week-end, il y avait quoi, 2-3 personnes qui sont de fait très loin de tout ça et qui se retrouvent là, on ne sait pas comment.
Oui, et puis aussi pas que ça, je trouve que on peut pas connaître tous les témoignages qui s'y vivent en fait, parce que c'est tellement personnel, mais on voit généralement chaque fois à la fin du week-end, on voit que y a la paix, il y a la joie, il y a quelque chose qui a changé, forcément. Et ça, on peut pas forcément demander à chaque personne, mais on le sent déjà dans
l'atmosphère, dans l'ambiance. J'entends l'ambiance. Voilà, Tiffaine de Vim, la responsable com qui vous souffle ce qu'il faut dire. Alors Tiffaine, je me tourne vers vous. Vous, c'est peut-être pas une expérience aussi radicale, hein, mais chaque expérience est belle et précieuse. Vous, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez débarqué? Vous avez commencé à le dire peut-être tout à l'heure, mais très rapidement, quand vous avez débarqué un week-end Jeunesse 2000, et qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes engagé dans ce mouvement?
Alors en fait, ça a commencé avec Hortense justement, qui proposait d'organiser Jeunesse 2000 et qui m'avait raconté qu'elle avait été extrêmement touchée lors d'un week-end à Montpellier l'année dernière. Et donc elle s'est lancée, elle a voulu lancer Jeunesse
2000. Parce que vous étiez amis en fait, c'est ça?
Voilà,
vous
exactement. Oui. Elle a voulu lancer ça à Toulouse et moi justement je ne connaissais pas et puis j'avais quand même envie de m'investir, j'avais quand même envie d'approfondir ma foi. Et donc je me suis dit bon pourquoi pas je vais me lancer dans Jeunesse 2000 et donc j'ai fait un premier week-end et avec comme je vous disais tout à l'heure tout ce qui est toute la notamment moi ce qui m'a touchée c'est vraiment les louanges.
Mais vous étiez,
et les témoignages.
Je sais pas, vous étiez croyante, pas croyante?
Oui, je suis plus ou moins pratiquante. Mmh. Et ma famille est croyante. Oui.
D'accord.
Et avec toute cette louange et tous ces témoignages, c'est des témoignages parfois tellement marquants, on se dit mais c'est incroyable que quelque chose comme ça puisse arriver. Et puis aussi, ce qu'il y a de marquant aussi dans ce type de week-end, c'est qu'il y a des gens qui se mettent à pleurer. Moi, ça m'a fait un drôle d'effet, ça aussi. Et donc, on sent vraiment une présence. Et donc, moi, vraiment, ça m'a touchée. Et c'est un peu donc. Je dirais que ce type de week-end est un peu comme une étincelle qui donne envie d'approfondir et de poursuivre et de chercher plus loin dans sa foi.
Alors, Hortense Rigal, qu'est-ce qui vous a pris d'organiser ce week-end Jeunesse 2000? Vous aussi, vous avez été touchée par ce Dieu vivant lors d'un week-end Jeunesse 2000?
Alors moi, ça a été plusieurs week-ends Jeunesse 2000.
En fait. Il en a fallu plusieurs pour vous.
Il en a fallu plusieurs pour que j'arrive jusqu'ici, vous voyez. En fait, je viens de Lille et à Lille, tous les ans, il y avait un week-end organisé. Moi, j'allais souvent à la veillée d'adoration le samedi soir. Et j'en ressortais toujours avec un nouveau souffle, avec une nouvelle foi, quelque chose de rayonnant à l'intérieur de moi. Et puis l'année dernière, j'ai des amis qui m'ont dit « Hortense, ça te dit pas de venir à Jeunesse 2000 à Montpellier, c'est pas très loin ?» Et j'étais « Ouh, ça m'embête un peu, un week-end complet, j'en avais jamais fait en entier vraiment. » Et en fait, j'ai dit « Bon, ok, je viens. » Et à ce week-end-là, ça me travaillait un peu qu'il n'y en ait pas à Toulouse. Je me disais, c'est dommage, c'est quand même vachement bien. Je suis sûre qu'il y en aurait vraiment besoin pour rassembler un peu les forces du diocèse, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a certains jeunes professionnels, notamment des amis, que je trouvais un peu éloignés de la foi, et j'avais envie de les ramener. Et je me dis, mais un week-end Jeunesse 2000, ça serait merveilleux, quoi. Et j'ai rencontré, on s'est retrouvés assises à table avec Philomena. Et
Ma question, c'était pas forcément sur la jeunesse de l'organisation du week-end à Toulouse. Hein.
Oui.
On donnera toutes les dates, etc. Mais c'est vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Disiez que donc, vous aviez l'habitude d'aller aux veillées de prière, que ça vous relançait.
Oui.
Mais je sais pas quelle importance ça a eu ou quelle expérience vous avez fait lors de ces week-ends.
Alors, en fait, dans ces week-ends, pour moi, c'est vraiment des mini-retraites. Et où il y a tout condensé. En fait, moi, tout ce que j'aime est dans ces week-ends. C'est-à-dire que à la fois, il y a la louange que j'aime bien, c'est le côté charismatique. Il y a du chapelet, il y a de l'adoration, il y a des temps de partage, des temps de témoignage. C'est vraiment tellement riche que pour moi, tout est condensé dans ce week-end et c'est merveilleux.
Donc, c'est la formule.
Et du coup, ça m'a beaucoup touchée, notamment les témoignages aussi des personnes où il aurait eu. Enfin, c'est assez frustrant parfois parce qu'il y a des témoignages chocs. Où les gens, voilà, c'est radical, ils ont une conversion tellement, tellement forte qu'on dit, bah ouais, mais moi, j'ai toujours cru, moi je suis un peu tiède, mais bon. Et en fait, il y a des conversions aussi qui sont plus lentes Et moi, c'est par les week-ends Jeunesse 2000, c'est un peu un escalier. À chaque week-end Jeunesse 2000, finalement, je franchissais un peu une marche vers. Je faisais grandir ma foi.
Et vous avez vu la lumière un jour?
Et mais je l'avais toujours vu, je l'entreperdais, mais là, je suis vraiment entrée dans la lumière. On va dire ça comme ça.
Chantons et levons les mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Alors chantons ensemble, chantons ensemble. Chantons et levons les mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Alors chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout puissant, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Alors chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre. Chantons ensemble, chantons ensemble, chantons ensemble, chantons ensemble, car il est saint, saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre. Dieu tout-puissant, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant,
Voilà, ce matin, donc, nous parlons de Genèse 2000. Alors, à la fin de cette émission, rapidement, je me tourne vers vous, Hortense Rigal. Est-ce que vous pouvez nous redire, d'abord, ça concerne pas seulement... Enfin, qui est invité? Donc, c'est 16-30 ans, et voilà. Semble-t-il, vous avez réuni toutes les forces du diocèse.
Tout à fait.
Toutes les forces vives côté des jeunes. Alors, rappelez-nous rapidement.
Ça rassemble la pastorale des jeunes, notamment du coup des lycées, parce que c'est à partir de 16 ans, la pastorale étudiante et le groupe de jeunes professionnels.
D'accord, donc tout le monde s'est mis autour de la table et tout le monde s'est dit il faut un grand événement, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est ça.
Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites après? Parce qu'on a envie de dire, bon, c'est bien joli de vivre un beau week-end, parfois de faire une expérience de Dieu, mais si après on est perdu dans la nature et qu'il n'y a pas de suite, voilà, c'est comme dans l'évangile. Après le mont Tabor, il faut redescendre dans la vallée, et il faut encore savoir où aller.
Voilà, c'est pour ça qu'à la fin du week-end, on envoie les jeunes en mission. On les exhorte à trouver leur place dans l'église et à chercher à s'investir, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on demande à des associations de venir entre, à partir de 10h jusqu'à 13h pour présenter...
Le dimanche.
Le dimanche, voilà. Ce qu'ils font. Donc ça peut être autant les mouvements que les communautés, que les associations de scouts, voilà, que les maraudes pour la Société Saint-Vincent de Paul, etc. Voilà, là où le jeune peut s'investir, là où le jeune peut faire grandir sa foi.
Donc toutes les forces vives que vous venez de décrire, avec les aumôniers, ce sera, seront présentes tant côté lycée qu'étudiants ou jeunes professionnels.
Exactement, il y aura tout pour tout le monde.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler du Week-end Jeunesse 2000. Merci. Alors maintenant, on donne toutes les informations pratiques. Vous me dites si je me trompe. Donc c'est à Toulouse, donc c'est au Centre catholique universitaire de Rangueil, donc à la paroisse Saint-Marc, du 29 au 31 janvier. On peut s'inscrire donc sur jeunesse2000.org, c'est ça?
Tout à fait.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire. Et puis, vous m'avez dit, mon petit doigt m'a dit que vous aviez besoin de sous. Et donc, s'il y a des âmes généreuses qui veulent aider ces jeunes à l'organisation de ce week-end, qui évidemment a un coût, vous pouvez faire ces dons sur jeunesse2000.org. Merci beaucoup, mesdemoiselles.
Merci à vous.
Merci. Merci à nos invités. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.